amateur, propagande.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, snobles.
Journal vivant,
construction,
obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et vous écoutez le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct, tous les vendredis. Dans le studio avec nous, Julien Michel. Bonjour Julien.
Bonjour à tous.
Amandine Vincent.
Bonjour.
Et moi-même Anaïs. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous proposer une émission consacrée au théâtre politique d'Erwin Piscator. Donc en quelques mots, je vais vous situer qui était Piscator. Donc Piscator est né le 17 décembre 1893 en Allemagne et il est considéré comme le véritable père du théâtre politique. Donc c'était un metteur en scène, un directeur de théâtre allemand qui, après s'être formé au métier de comédien et de metteur en scène, a fondé en 1919 la compagnie de la Tribune afin d'y présenter des pièces laissant transparaître l'influence de l'expressionnisme et du travail engagé. Il collabore notamment avec le peintre expressionniste Georges Grosz. Il rejoint le mouvement Dada à Berlin en 1918, adhère au Parti communiste et dirige le théâtre prolétarien. Donc ce dernier, le théâtre prolétarien, est fondé par Karl-Heinz Martin. Il a été dirigé par Piscator à partir de 1920. Celui-ci tente, dans l'Allemagne du chômage et de l'inflation des années 20, un théâtre dont les multiples effets déboucherait sur une prise de conscience de la vie sociale et politique. Il est guidé par le marxisme. Pour cela, il multiplie les techniques. Haut-parleur, ombre chinoise, plateau tournant, changement de décor à vue, projection de slogans, de documents divers, films cinématographiques. De 1919 à la prise de pouvoir par Hitler, Piscator dirigea et équipa 5 salles. Dans différents théâtres berlinois, mais surtout à la Volksbühne, qu'il dirigea de 1924 à 1927. Puis, au Theater am Nollendorfplatz, de 1927 à 1928, Piscator et ses collaborateurs, parmi lesquels figurait Bertolt Brecht, inaugurèrent l'utilisation de scènes simultanées et l'insertion de projections cinématographiques dans les pièces. Piscator concevait le théâtre comme un outil permettant d'enseigner l'histoire et la politique. Donc, comme il l'explique dans son livre « Le théâtre politique », c'est le livre dont est tirée toute l'émission, qui est édité chez L'Arche. Donc, « Le théâtre politique » qui est édité en 1929. Il va surtout adapter des romans. Il monte aussi des pièces de théâtre, mais il y a beaucoup de romans, notamment « Le brave soldat Schweck » de Jaroslav Hasek et « Drapeau » d'Alphonse Paquet. Donc il explique dans son livre que le théâtre épique, dont il se revendique, doit briser le schéma traditionnel de l'action dramatique. Il souhaite détruire la construction classique, avec l'exposition d'une action, un point culminant et la catharsis, et construire l'action autour d'épisodes en mouvement, comme la réalité tragique du quotidien. De 1931 à 1936, Piscator vécut et travailla en Union soviétique. Puis, il résida en France jusqu'en 1939. Il partit ensuite pour les États-Unis, où il crée notamment un département écriture, auquel participèrent entre autres Arthur Miller et Tennessee Williams. Mais victime de la chasse aux sorcières, il retourne en Allemagne et s'installe à l'Ouest en 1951. De 62 à 66, il dirigea la Freie Volksbühne à Berlin-Ouest, mettant en scène Le Vicaire, en 1963, de Rolf Koschütz. Le Vicaire, c'est sur le silence du pape Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale, une pièce dont on n'a pas souvent entendu parler mais qui est vraiment essentielle, et L'Instruction, en 1965, de Peter Weiss. Piscator a été très fortement marqué par l'horreur de la Première Guerre mondiale où il était soldat dans les tranchées en 1921.
Nous avancions dans l'Arc d'Ypres, première offensive allemande du printemps 1915. Pour la première fois, on employait les gaz. Des cadavres anglais et allemands empestaient sous le ciel gris et désolé des Flandres. Nos compagnies étaient décimées. Nous devions combler les vides. Avant de nous jeter en première ligne, on nous faisait avancer et reculer. Comme nous nous remîmes à avancer, arrivèrent les premiers obus. Ordre de se disperser en tirailleurs et de s'enterrer. Je me jette par terre, le cœur battant, et j'essaye, tout comme les autres, de m'enfoncer dans la terre, m'aidant de ma pelle. Mais, tandis que les autres y réussissent, moi, je n'y réussis pas. Le sergent s'amène, rampant, et crie
« Mille tonnerres ! Qu'attendez-vous ?»
Je n'arrive pas à m'enterrer.
« Pourquoi pas ?»
Je n'y arrive pas. Alors lui, injurieux ?«
Votre métier ?»
Comédien. Au milieu des obus qui explosaient de toutes parts, il me sembla, à l'instant où je prononçais le mot « comédien », que ce métier pour lequel pourtant j'avais combattu jusqu'à la limite de mes forces, que cet art que je mettais toujours au-dessus de tout, était si apprêté, si bête, si ridicule, si menteur aussi, bref, si peu adapté à la situation réelle de cette époque et de ce monde, que j'avais, quand tout est dit, encore moins peur devant les obus qu'à la seule pensée honteuse de ce pauvre métier. Un petit épisode, mais significatif pour moi de cette époque, et à jamais. L'art, l'art réel, l'art absolu, doit montrer qu'il est à la hauteur de toutes les situations, et capable de faire ses preuves devant chacune d'elles. J'en ai vu de pire que le tir d'obus dont je parlais. J'en ai vu de pire depuis, dans les tranchées d'Ypres. Et c'est alors que mon métier privé, mon métier de comédien, a été rasé comme les tranchées que nous occupions, et tué net comme ces hommes, devenus cadavres autour de nous.
Chant des mouettes, les deux pieds dans le ciment des rues. Quelques restes à se mettre sous la dent. On va pas se laisser crever non plus. Il serait trop tôt pour faire l'inventaire, même si le temps se gâte. Après un nouveau fiasco, un grand coup de chatte. À peine trentenaire, étrangement traumatisé de la vie. À chacun c'est tranquillisant pour retrouver la porte de sortie ou le meilleur raccourci. On se raccroche à ce qu'on peut. La sorcellerie du pays aux écrits pieux, comme c'est curieux. Autant de raisons d'être inquiète, si tant est que les prisons se battent pour nous mettre en quatre. Dernier exemple en date, quand les banlieues crachent du feu, c'est toute la classe politique qui s'arrache les cheveux, puis baisse les yeux et marche droit comme une queue ou une ligne de cesse. Les quartiers poussent trop vite, les premiers ch'tards apparaissent, les petits frères ont plus de poils sous la bite que toutes les unités de CRS qui viennent traîner leur graisse. Mes phrases brûlent des caisses et mes rimes savent se traînent. J'ai pas attendu que la République se taille les veines devant l'horreur de nos curriculums, car entre barbares et racailles, comme terminologie du parfait sous-homme, appauvri au mais comme de l'uranium, entre barbares et racailles, comme terminologie du parfait sous-homme, appauvri ok mais comme de l'uranium, appauvri ok mais comme de l'uranium. Jusqu'à la fin, la dernière latte, le dernier train, la dernière seconde avant le coup de frein à main, putain de vie et ses dérapages, ma barque navigue en plein marécage, de quoi tu me parles, partage, en cache, que des renois, très peu de benoît, drogue, alcool, HP ou prison qui nous reçoit, c'est pas la foire aux bestiaux, mais presque. Mais est-ce que tu crois qu'on va se contenter des restes? Moi j'ai peu de préférence entre l'essence et la poudre. Quand tu bouges mes doigts brûlant danse la foule. Demande pas pourquoi, pour qui, comment, n'y vois rien d'étonnant. Des phrases du spécimen à son comportement. Parasite au monde libre, livre une étrange guerre. Avant Yves, journaliste et autres mange-merde. Le crâne plein de solutions, pas toujours orthodoxes. Et puis j'en assume les paradoxes. Car entre barbares et racailles, comme terminologie du parfait sous-homme, appauvri ok mais comme de l'uranium, appauvri ok mais comme de l'uranium. L'asphyxie est lente sous le chiffon de chloroforme, et je dors encore que d'un poumon. Le second m'attache à mes fantômes comme autant de faux passeports avant le vol vers un archipel créole. À quoi rêvent les hommes qu'on habille en sous-homme sur les chemins sans fin qui ne mènent pas à Rome? J'ai toute la vie pour ne pas mériter mon sort, j'aurai toute la mort pour me reposer des porcs. À l'orphelinat des amants du bitume, on apprend à tromper l'amertume en puissant sur les singes et les sages. Formidable ce que la race des seigneurs est paisable. Percez-vous d'illusions et de stupides refrains. Sale enfant de putain aux premières loges des festins. Il n'y a plus que l'ombre d'un minuscule nombre entre la beauté du monde et nos fleurs sur des tombes. Car entre barbares et racailles, comme terminologie du parfait sous-homme, appauvri ok mais comme de l'uranium, appauvri ok mais comme de l'uranium. Entre barbares et racailles, comme terminologie du parfait sous-homme, appauvri ok mais comme de l'uranium, appauvri ok mais comme de l'uranium.
Notre projet, sorte de revue de l'époque qui allait du début de la guerre à l'assassinat de Liebknecht et de Rosa Luxembourg, pour exprimer le fait que la révolution sociale s'était poursuivie après la terrible défaite de 1919, cette revue allait prendre pour titre le mot de Liebknecht. Malgré tout, lors de la séance décisive à la centrale, ce projet provoqua quelques haussements d'épaules parmi les instances du parti. De grands personnages comme Liebknecht et Rosa Luxembourg, représentés par des comédiens. Et d'autre part, l'idée de mettre en scène des membres du gouvernement comme Ebert, Noske, Scheidemann, Landsberg, etc. sembla dangereuse à beaucoup. Mais en l'absence de toute autre proposition, le projet finit par être approuvé. Bien qu'avec scepticisme, car il nous restait à peine 3 semaines jusqu'à la première. Ce spectacle fut une œuvre collective, où se conjuguèrent les efforts de l'auteur, du metteur en scène, du musicien, du décorateur et des comédiens, et en même temps que le texte, naissait la musique et la mise en scène. Des scènes furent montées simultanément en différents endroits du théâtre, avant même que le manuscrit ne fût définitivement fixé. Et pour la première fois, le film devait être lié organiquement aux événements scéniques.
Vous êtes bien sur le théâtre de la Gamelle et nous consacrons cette émission à Piscator et au théâtre politique. Juste avant la musique de la rumeur, nous avons entendu le début d'explication que Piscator donnait pour le montage de la pièce qu'il appelait « Malgré tout ». C'est donc une pièce qui a été écrite et qui du coup était à la base un énorme projet de fresque historique qui a été réduite sur le début de la Première Guerre mondiale jusqu'à l'assassinat et la mort de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Donc on va reprendre la lecture du théâtre politique où Piscator nous explique un peu la construction et comment s'est passée la réalisation de cette pièce.
La liaison de ces deux formes d'art apparemment opposées, le théâtre et le cinéma, prit une place abusive, selon moi, dans les comptes rendus de la critique et le jugement du public. Je n'attribuais pas à cette expérience une importance aussi considérable. Repoussée par les uns, saluée avec des débordements excessifs par les autres, elle fut rarement appréciée à sa juste valeur. Est-ce un hasard si, dans chaque pièce, le sujet devient le héros principal ? De lui provient la nécessité, la finalité de la vie qui seule confère au destin personnel un sens supérieur. Pour ce faire, j'utilisais des procédés montrant l'interdépendance des grands facteurs, humains et surhumains, de l'individu et de la classe sociale. L'un de ces procédés fut le cinéma. Mais il n'est rien de plus qu'un procédé, et un autre procédé peut très bien le remplacer demain. Le film était pour moi, malgré tout, un document. Nous avions utilisé dès l'abord des prises de vue authentiques de la guerre, de la mobilisation, une parade des maisons régnanes d'Europe, etc., tirées des archives impériales que des amis avaient mis à notre disposition. Ces prises de vue montraient avec brutalité l'horreur de la guerre. Attaque aux lance-flammes, tas de cadavres déchiquetés, villes en feu. La mode des films de guerre ne s'était pas encore implantée et ces photos visait à secouer et éveiller les masses prolétariennes, plus que ne l'auraient fait des centaines d'exposés. J'aurais parti le film sur l'ensemble de la pièce et recouru aux projections là où il ne paraissait pas suffisant. La représentation, dans son ensemble, n'était qu'un gigantesque montage à partir de discours authentiques, d'articles, d'extraits de journaux, d'appels, de tracts, de photographies et de films de guerre. De films de la Révolution, de scènes et de personnages historiques.
Je dois avouer que je voyais venir la soirée avec inquiétude. Cette inquiétude présentait un double caractère. Premièrement, comment apparaîtrait l'interaction des éléments scéniques utilisés? Et deuxièmement, passerait-il quelque chose de nos intentions dans la réalisation? Lors de la répétition générale, le chaos intégral encore. 200 personnes couraient et criaient dans la plus grande confusion. Meisel, que nous venions de convertir à la musique nègre, exécutait, entouré de 20 musiciens, un tapage infernal. Gasvara arrivait à chaque instant avec de nouvelles scènes jusqu'à ce que je l'eusse immobilisé auprès des appareils de projection. Hersfield, le menton en avant, s'était mis en devoir de peindre en brun, à lui tout seul, la totalité des décors mobiles. Pas un des films intercalés ne surgissait au moment voulu. Les comédiens ne connaissaient pas exactement leur place. Pour ma part, La masse des matériaux commençait à m'écraser. Des gens qui étaient venus s'asseoir ce soir-là dans la salle quittèrent le théâtre à 3 heures du matin sans avoir la moindre idée de ce qui s'était déroulé sous leurs yeux. Même les scènes qui nous avaient paru tenir le coup ne nous satisfaisaient plus. Parce qu'il manquait à tout cela quelque chose d'essentiel, le public. Le soir de la représentation, des milliers de personnes emplissaient le théâtre. Toutes les places possibles étaient occupées, tous les escaliers, les corridors, les accès pleins à craquer. L'enthousiasme de pouvoir assister au spectacle dominait a priori cette masse vivante. Ainsi se manifestait cette incroyable disponibilité au théâtre qu'on ne peut trouver que dans le prolétariat. Bientôt, même cette disponibilité se fit active. La masse se chargea de la régie. Tous ces gens qui emplissaient le théâtre avaient vécu cette époque et ce qui se déroulait sous leurs yeux, c'était exactement leur destin, leur propre tragédie. Le théâtre devenant pour eux réalité, il n'y eut plus dès lors une scène face au public, mais une salle de réunion commune et gigantesque, un gigantesque champ de bataille, une gigantesque manifestation. C'est cette unité qui, ce soir-là, révéla le pouvoir d'agitation du théâtre politique.
L'action pleinement efficace du cinéma montrait, au-delà de toute discussion théorique, la justesse de son emploi. L'expérience de Drapeau se renouvelait. Le moment de surprise, résultant de l'alternance du cinéma et du théâtre, constituait déjà un effet. Mais il s'avérait que la tension dramatique née de l'alternance du cinéma et du théâtre était plus intense encore. Les deux arts se renforçaient mutuellement, et il en résultait, à certains moments, une frénésie comme j'en ai rarement vécu au théâtre. Quand, par exemple, au vote des crédits militaires par les sociaux-démocrates, scène dramatique, succéda le film qui montrait un assaut et les premiers morts, non seulement l'événement était caractérisé sur le plan politique, mais une émotion humaine s'en dégageait. On atteignait à l'art. Ce qui prouvait la justesse de notre principe, à savoir que l'effet de la propagande politique est le plus convaincant là où la forme artistique atteint à la perfection.
Cette pièce a été inspirée en fait par un texte de Karl Liebknecht qu'on va vous lire, qui s'appelle Malgré tout, qui est paru dans le journal du mouvement spartakiste, qui s'appelait Die Rote Fahne, le drapeau rouge. Donc c'est paru à Berlin le 15 janvier 1919.
Assaut général contre Spartacus. Ah bah les Spartakistes ! Crie-t-on partout. Saisissez-les, fouettez-les, piquez-les, fusillez-les, écrasez-les, mettez-les en pièces ! Des abominations sont commises plus cruelles que celles des troupes allemandes en Belgique.
Spartacus vaincu ! Jubile toute la presse.
Spartacus vaincu ! Les sabres, les revolvers et les carabines de la police germanique rétablies dans ses fonctions. Et le désarmement des ouvriers révolutionnaires scelleront sa défaite.
Spartacus vaincu ! C'est sous la protection des baïonnettes du colonel Ranart, des mitrailleuses et des canons du général Lutwitz que se dérouleront les élections de l'Assemblée nationale, un plébiscite pour Napoléon Ebert.
Spartacus vaincu !
Oui, les ouvriers révolutionnaires de Berlin ont été vaincus. Oui, abattus, des centaines des meilleurs d'entre eux. Oui, jetés au cachot, des centaines, parmi les plus fidèles.
Oui, ils ont été vaincus. Car ils ont été abandonnés par les marins, les soldats, les gardes de sécurité, par l'armée populaire, sur l'aide desquels ils avaient compté. Et leurs forces ont été paralysées par l'indécision et la pusillanimité de leur chef, et l'immense flot bourbeux contre-révolutionnaire des éléments arriérés du peuple et des classes possédantes les a submergés.
Oui, ils ont été vaincus. Et c'était une nécessité historique qu'ils le fussent. Car le temps n'était pas encore venu. Et pourtant, la lutte était inévitable. La préfecture de police, ce palladium de la Révolution, eût été une défaite déshonorante. La lutte avait été imposée au prolétariat par la bande d'Herbert, et les masses berlinoises furent emportées par-delà tous les doutes et les hésitations.
Oui, les ouvriers révolutionnaires de Berlin ont été vaincus.
Et les Ebert, Scheidemann, Nosk ont remporté la victoire. Ils l'ont remportée parce que les généraux, la bureaucratie, les junkers de la campagne et de l'industrie, la curée et les sacs d'argent et tout ce qui était mesquin et arriéré les ont aidés. Et ils l'ont remporté pour eux avec des obus, des bombes à gaz et des lance-mines.
Mais il y a des défaites qui sont des victoires, et des victoires plus fatales que des défaites.
Les vaincus de la semaine sanglante de janvier se sont battus glorieusement. Ils se sont battus pour quelque chose de grand, pour le but le plus noble de l'humanité souffrante, pour la libération matérielle et spirituelle des masses pauvres. Pour des buts sacrés, ils ont versé leur sang, qui a été ainsi sanctifié. Et de chaque goutte de ce sang, cette semence de dragon pour les vainqueurs d'aujourd'hui, des vengeurs naîtront pour ceux qui sont tombés. De chaque fibre brisée de nouveaux combattants de la grande cause éternelle et impérissable, comme le firmament.
Les vaincus d'aujourd'hui seront les vainqueurs de demain, car la défaite est leur enseignement. Le prolétariat allemand manque encore de tradition et d'expérience révolutionnaire. Et ce n'est que par tâtonnement, des erreurs juvéniles, des échecs douloureux, qu'on peut acquérir l'expérience qui garantit le succès futur.
La révolution du prolétariat, qu'ils ont cru noyée dans le sang, elle renaîtra, gigantesque, et son premier mot d'ordre sera « À bas les assassins d'ouvriers d'Herbert Scheldemann Nosk !»
Les battus d'aujourd'hui ont retenu l'enseignement. Ils sont guéris de l'illusion qu'ils pouvaient trouver leur salut dans l'aide des masses confuses de soldats, qu'ils pouvaient s'en remettre à des chefs qui se sont révélés faibles et incapables. Guéris de leur croyance en la social-démocratie indépendante, qui les a honteusement abandonnés. C'est en ne comptant que sur eux-mêmes qu'ils vont mener les batailles à venir, qu'ils obtiendront leur victoire future. Et la phrase fameuse « l'émancipation de la classe ouvrière ne peut être que l'œuvre de la classe ouvrière elle-même » a acquis pour eux, du fait de la leçon amère de cette semaine, une nouvelle signification profonde.
De même, les soldats qui ont été trompés comprendront bientôt quel jeu on leur a fait jouer quand ils sentiront à nouveau sur eux le knout du militarisme remis en selle. Eux aussi sortiront de l'ivresse où ils sont plongés aujourd'hui.
Spartacus vaincu.
Doucement, nous n'avons pas fui. Nous ne sommes pas battus. Et même si vous nous enchaînez, nous sommes là et nous restons là. Et la victoire sera nôtre.
Car Spartacus, cela signifie feu et flamme. Cela signifie cœur et âme. Cela signifie volonté et action de la révolution ou du prolétariat. Et Spartacus, cela signifie détresse et aspiration au bonheur. Volonté de mener la lutte du prolétariat conscient. Car Spartacus, cela signifie socialisme et révolution mondiale.
La marche au Golgotha de la classe ouvrière allemande n'est pas encore terminée. Mais le jour de la rédemption approche. Le jour du jugement pour les Herbert, Scheckdermann, Nosk et pour les dirigeants capitalistes qui aujourd'hui se cachent encore derrière eux. Oh, jusqu'au ciel, battent les flots des événements. Nous sommes habitués à être précipités du sommet jusque dans les profondeurs. Mais notre vaisseau poursuit fermement et fièrement sa route droite jusqu'au but.
Et que nous vivions encore, quand il sera atteint. Notre programme, lui, vivra. Il dominera le monde de l'humanité libérée. Malgré tout.
Sous le grondement de l'effondrement économique qui s'approche, l'armée encore sommeillante des prolétaires se réveillera comme au son des trompettes du jugement dernier, et les corps des combattants assassinés ressusciteront et exigeront des comptes de leurs bureaux. Aujourd'hui encore, le grondement souterrain du volcan, demain il fera irruption et ensevelira les bourreaux sous ses cendres brûlantes et ses flots de lave incandescentes.
Il faut qu'on entende.
Vous êtes bien sur le théâtre de la Gamelle et nous consacrons cette émission à Piscator et au théâtre politique. Après avoir découvert malgré tout, nous allons tenter de vous expliquer un peu une des pièces que Piscator a montées qui s'appelle « Hop là, nous vivons », qui donc a été représentée en 1927 et qui est une pièce qui a été commandée par Piscator à Ernst Toller. Donc rapidement, pour vous situer qui était Ernst Toller, c'est un contemporain de Piscator, un poète et dramaturge. Il est né la même année que lui en 1893 et il a participé activement à la Révolution allemande, notamment dans les conseils ouvriers de Bavière. Pour ceux qui connaissent pas, du 7 avril au 3 mai 1919, il y a eu un gouvernement révolutionnaire qui a été proclamé. Donc Bavière, c'est le sud-est de l'Allemagne. Et donc ce poète et dramaturge Ernst Toller a dirigé en fait cette première république des conseils. Il avait à peine 25 ans. Donc ça, on vous parle de ça en 1919. Toller, il a passé beaucoup d'années en prison. Et c'est là qu'il a écrit la majorité de ses pièces. Et juste, je vais peut-être insérer un petit peu des souvenirs de Piscator qui nous livre dans son livre Le Théâtre Politique. Il nous livre des souvenirs de cette période, donc juste après la Première Guerre mondiale, des souvenirs les plus enthousiasmants.
Berlin, janvier 1919. Rue d'un désordre indescriptible. Groupes discutant dans tous les coins. Manifestation monstre composée d'ouvriers et de sympathisants. Cortège divisé en deux. Parti communiste, parti social-démocrate. Les pancartes droites au-dessus des têtes. Des inscriptions. Vive Herbert Eschedelmann. Vive Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Une excitation extraordinaire s'était emparée de tous. Des insultes brutales s'entrecroisent. Malheur aux partis qui se saisissent des pancartes de l'autre. Sur le trottoir, elles étaient réduites en pièces.
J'assistais une fois à une lutte passionnante. Des communistes avaient pénétré dans les rangs d'un défilé social-démocrate. 30 points environ s'accrochaient autour de la hampe pour laquelle on combattait. Mais les forces s'équilibraient, et la pancarte n'oscillait même pas. Elle demeurait immobile, au-dessus de la cohue. Et puis, tout à coup, elle s'inclina en avant. Quand un socialiste sauta, sans plus perdre une seconde, et arracha la pancarte de sa hampe. Elle passa alors au-dessus des autres, fut brandie plus loin, tandis que des milliers de gosiers hurlaient « Vive Ebert et Scheidemann !» et que tout aussi vigoureusement on entendait de l'autre côté le grand cri de la réponse « Ah, bah, ah, bah !» et ce cri sans fin se répercutait s'amplifier à son tour « Vive Liebknecht !» et tous de courir vers un coin de la rue. Là, un taxi arrêté. Dans le taxi, assis, Liebknecht. Il devait parler. Il parla. Un discours très proche des faits, d'une argumentation grandiose. Un discours parcouru aussi par la vibration de l'émotion personnelle. Dans mes souvenirs, il se dresse encore au-dessus de son cadavre, comme une flamme vive qui ne saurait être éteinte même dans le sang. Ce soir-là, les premiers coups de feu claquèrent.
Donc c'était des souvenirs de Piscator de cette période. C'est vrai qu'on a choisi là de vous livrer un peu le Piscator de la Première Guerre mondiale jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Hitler. Et il faut bien comprendre que cette période, elle est vraiment essentielle pour comprendre son théâtre à Piscator, parce qu'il y a à la fois une inflation, une pauvreté, une précarité, un chômage de masse énorme, que le Parti communiste et que du coup les éléments d'avant-garde les plus appréciés et les plus déterminés à aller à la victoire, ils ont été assassinés tout simplement par le Parti social-démocrate. Donc vous entendez souvent parler de Rosa Luxembourg et Liebknecht, ils ont été assassinés en 19. Il y a cette République de Bavière qui dure un mois puis qui est réprimée durement dans le sang. Et puis bah tout de suite après ça, Piscator, il a pas du tout de mal à monter ces événements historiques qui sont en fait l'actualité brûlante encore pour lui au théâtre, à la scène. Donc il demande à Ernst Toller, son ami Ernst Toller, de lui écrire une pièce, « Hop là, nous vivons ». Donc de quoi parle cette pièce? Cette pièce parle d'un jeune révolutionnaire qui s'appelle Karl Thomas, qui est séparé de ses camarades, emprisonné pendant 8 ans dans un asile d'aliénés. Et lorsqu'il se retrouve enfin libre, le régime capitaliste qu'il avait combattu prospère, et quand il va voir ses camarades, il se rend compte qu'il y en a un qui est devenu ministre de l'Intérieur. Ça lui met un sacré coup à Karl. Les années d'emprisonnement n'ont pas entamé ses idéaux. Donc il veut toujours combattre le régime, mais ses camarades, eux, ont changé. Ils se sont habitués à ce système. Donc pour l'action, il faudra attendre, et Karl Thomas se retrouve sans repère dans un monde de fous.
Hop là, nous vivons. 3 septembre, 7 novembre 1927. Nous ne choisîmes pas pour inaugurer notre théâtre une œuvre déjà existante. Nous voulûmes débuter ainsi qu'on nous l'avait toujours demandé, avec une pièce née à la fois de notre idéologie et de nos conceptions théâtrales. Le but que nous nous étions tout d'abord fixé fut atteint très vite grâce à une esquisse que Toller m'avait donnée au printemps. L'idée fondamentale en était le choc ressenti par un révolutionnaire retrouvant, après 8 ans passés à l'asile, le monde de 1927. Cette idée offrait également la possibilité d'évoquer le cadre social et politique de toute une époque. Mais comme c'était toujours le cas chez Toller, l'aspect documentaire se mêlait constamment au lyrisme. Certes, le drame exige la présence de ces deux éléments, l'élément documentaire et l'élément émotionnel, le lyrisme. Mais pour nous, dans la perspective de notre théâtre, il fallait que le sentiment fût clairement intégré, visible de tous, de toutes parts. Comme s'il avait été placé sous une cloche de verre pour que le spectateur l'observe, le sentiment aussi sert à montrer notre conception du monde. Mais nous ne pouvons lui concéder une place souveraine où il serait magnifié. Cette exigence, qui correspond à une attitude politique, se justifie d'un autre point de vue. Le poète pédagogue et philosophe ne doit plus refléter son « moi » dans son œuvre. Le temps de l'art subjectif est révolu.
La structure de la scène fut conçue en fonction d'une large utilisation du film. En gros, le film était déjà contenu dans le manuscrit de Toller. Mais il prit une importance beaucoup plus grande au cours du travail. L'objectif déterminant demeurait le même. Expliquer le destin des individus par les facteurs historiques généraux. Relier sur le plan dramatique le destin de Thomas à la guerre et à la révolution de 1918. Le film acquit cependant une plus grande importance, une plus grande fonction dramatique. Et cela en raison de l'idée fondamentale qui est le pivot de la pièce. Un homme, isolé depuis 8 années, se trouve brutalement confronté avec le monde d'aujourd'hui. Il fallait montrer ces 8 années avec toutes les terreurs, leur folie et donc aussi avec leur aspect insignifiant. Il fallait en un mot donner un aperçu de la monstruosité contenue dans ce laps de temps. Le choc ne pouvait prendre toute sa force que si cet abîme béant devenait visible. Il n'y a pas d'autre moyen que le film pour faire se dérouler en 7 minutes 8 interminables années. 3000 mètres de film environ furent tournés pour Hopla, nous vivons. Naturellement, seule une infime partie de ce film fut utilisée. Parallèlement, une petite équipe sous la direction de Victor Blum recherchait sans relâche des séquences authentiques sur ces 10 dernières années dans les archives des grandes sociétés de production cinématographique. Un certain caractère disparate, dû au montage de ces films récents et anciens, ne put être évité au cours de la représentation. Une des scènes les plus intéressantes, tant du point de vue cinématographique que du point de vue de la technique du jeu, fut celle du radiotélégraphiste dans l'acte de l'hôtel. Là, j'associais l'annonce faite par haut-parleur, le texte dit par le comédien et l'image cinématographique. Il fallait que le film fût, comme on le dit aujourd'hui, synchronisé, avec ces deux autres éléments. En d'autres termes, la longueur des phrases devait être chronométrée et les séquences du film découpées en conséquence.
Must have whiskey on, you know why. little girl. I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Je le jure sur tous ces martyrs livides que je serre dans mes bras. Je le jure sur eux, que toutes mes forces appartiendront désormais à la révolution mondiale.
La voix du prolétariat russe.
Prolétaires de tous les pays, nous comptons sur vous.
Bruit croissant, l'ouvrier allemand emmène les deux martyrs par la gauche. Le capital mondial entre par la droite. Le capital mondial.
Des armes, des armes, des armes.
Le diplomate résigné.
Le prolétariat russe nous met le couteau sous la gorge.
Le capital mondial.
Guerre, guerre, guerre.
Le diplomate.
Nous avons envoyé Mannerheim en Finlande. Son travail était un beau succès. Wrangel, lui aussi, se maintient. Le général Water a prouvé sa valeur dans la Ruhr. En Hongrie, Horthy nous fournit tous les jours le nombre de cadavres voulus. Nous avons fait assassiner Liebknecht et Rosa Luxembourg.
Le capital mondial.
Vous n'avez pas tout fait. Vous avez été trop indulgent.
Le diplomate, on sent un revirement en lui. L'officier se précipite sur scène.
Majesté, des armes entières sont en marche.
Le calotin est soufflé derrière lui. Le capital mondial.
Anéantissez tout le prolétariat. Soumettre, piétiner, terreur blanche.
L'officier.
Oui, majesté, à vos ordres. Les pièces d'artillerie sont prêtes. Notre plan est fait. Nous renonçons à Berlin et nous établissons le blocus. La Poméranie et la Bavière sont entre nos mains. Des armes sont disponibles en quantité énorme. Je me félicite d'être le sauveur de votre majesté. Nous, les Allemands, nous sommes une fois pour toutes aux premières lignes, là où le danger est le plus grand. Nous sommes le soutien du capital international.
Le calotin.
Au nom du Seigneur, béni soit son saint nom.
Le diplomate.
Évidemment, Majesté, si ces nouvelles sont crédibles, je reste, tout comme auparavant, complètement à votre disposition.
L'ouvrier allemand.
Le temps est venu. Nous agirons et nous démolirons le pilier du capitalisme.
Qui es-tu ?
Le diplomate.
Qui es-tu ?
L'ouvrier allemand.
Nous sommes le levier de la révolution mondiale. Nous sommes la force qui ébranle les assises du capital mondial. Les yeux de tous les combattants prolétaires sont fixés sur nous et le reflet de la liberté brille sur eux.
Le capital mondial.
Malédiction ! Alignez les armes !
L'officier sort. On entend des ordres dehors qui se perdent au loin. La voix du prolétaire allemand couvre peu à peu les ordres donnés.
Prolétaire au combat !
Le capital mondial.
Enfer et damnation !
Des voix de partout.
Combat ! Combat ! Combat !
Le capital mondial en sortant à droite.
À bas la Russie soviétique !
L'ouvrier allemand.
Tout pour la Russie ! Tout pour la Russie ! Vive la Russie soviétique !
Des voix, un cœur vibrant reprend le cri. Des masses arrivent sur scène. Le diplomate s'incline profondément. L'ouvrier allemand lui donne un coup de pied. Il disparaît à gauche avec le capital mondial. Le professeur de sociologie de droite...
Mon œuvre la plus récente.
L'ouvrier allemand prend son livre, le jette au loin. Le professeur de sociologie quitte rapidement la scène par la gauche. La foule se précipite sur scène de toutes les directions, démolit et piétine les barrières en criant
« Frères !
Camarades !
Unissez-vous !
Unissez-vous ! »
L'ouvrier allemand récite le premier vers de l'International. Le chœur sur scène se met à chanter, ainsi que le public. Vous venez d'entendre un extrait, plus exactement la fin, d'une des pièces qui a été montée par le collectif de Piscator en 1920 et qui est donc un texte qui s'appelle « L'heure de la Russie » écrit par Lajos Barta. Donc ce qui est assez manifeste, c'est parce que là on vous a lu beaucoup de théories, des écrits théoriques de théâtre, et là on peut voir vraiment très concrètement que Piscator et donc son collectif et tout le théâtre qu'on appelle théâtre d'agit-prop avait vraiment cette volonté de faire disparaître le héros traditionnel au profit de groupes. Donc les personnages ont on les a lus, hein, mais les personnages, c'était pas personnifié par un héros traditionnel, mais plutôt c'était des concepts politiques, le capital. Plus haut dans la pièce, il parle de l'armée, de l'État. Dès 1920, cette façon de faire du théâtre va marquer toute l'œuvre de Piscator. On avance un petit peu dans le temps, et puis on voulait, pour finir, il nous reste 10 petites minutes, vous parler de deux mises en scène de Piscator. Donc la mise en scène de Rasputin, et puis la mise en scène du brave soldat Schweik. Juste pour en fait vous parler encore des innovations et des techniques qui sont vraiment récurrentes, utilisées par Piscator largement, et qui correspondent vraiment à son temps. Donc quelques mots sur la mise en scène de Rasputin en 1927.
Donc la forme scénique. Pour la première fois, nous n'avions pas affaire à une pièce qui, bonne ou mauvaise, parfaite ou non sur le plan du langage ou sur le plan dramatique, tenait cependant compte des exigences propres au théâtre, mais à un roman. Et à un roman dans lequel, précisément, malgré la passivité du personnage central, tout reposait sur le mouvement. Schweik est transporté d'une prison à l'autre. Schweik est amené au conseil de révision sur un fauteuil à roulettes. Schweik accompagne l'aumônier militaire à la messe. Schweik est transporté au front par le train. Schweik marche des jours entiers à la recherche de son régiment. Bref, autour de lui est organisé un mouvement continuel, et tout est emporté par un courant ininterrompu. Impression extraordinaire de voir exprimer à travers la fluidité de la matière épique l'agitation totale et constante de la guerre. Déjà, lisant le roman pour la première fois, bien avant de penser à une adaptation dramatique, j'avais eu l'idée d'un déroulement ininterrompu de toute l'action. Lorsqu'il fut question de porter le roman à la scène, cette idée se concrétisa et aboutit techniquement à l'utilisation du tapis roulant.
Je me suis un peu trompée sur l'introduction. Il s'agissait donc d'une des innovations que Piscator a apportée à la scène. Donc, il s'agit du tapis roulant. Donc, il a fait vraiment construire ce tapis roulant, ce qui est assez hallucinant pour l'époque. Donc, c'était un tapis roulant qui allait de jardin à cour. Et juste pour la petite anecdote, parce qu'il l'explique dans son livre, le constructeur lui avait assuré que ce tapis roulant ne ferait aucun bruit, qu'il serait absolument silencieux. Et c'est avéré quand il a été construit et que le décor a été mis en scène, qu'on n'entendait même pas les comédiens dire leur texte tellement le tapis roulant était bruyant. Donc jusqu'avant la première, ils ont dû décupler plein d'efforts pour trouver les moyens de faire taire ces bruits mécaniques. Et finalement, ils ont réussi à atténuer le bruit.
C'est assez dingue pour l'époque, hein, quand même.
C'est assez incroyable. Et donc, ce que je voulais vous dire par rapport à Rasputin, donc c'est une pièce qui a été à la base choisie à partir d'un texte de Alexei Tolstoï. En fait, il s'est avéré que, encore une fois, Piscator trouvait que, enfin, ça lui convenait pas forcément la façon dont c'était écrit. Donc, il a fait appel à des camarades, donc Gaspara, Léo Lagna, Bertolt Brecht, pour insérer des ajouts qui correspondrait en gros à son but, c'est-à-dire nous expliquer la révolution russe. Ce qui l'intéressait, c'était de montrer la décadence des classes dirigeantes, et du coup, les origines de la révolution russe étaient vues de cette fois-ci d'un point de vue par en haut. Le personnage de Rasputin était mis en avant. Pour finir cette émission, vous imaginez bien que Piscator n'a pas eu que des éloges, bien qu'il en ait eu quand même pas mal et que son théâtre était très prisé. Il y avait des milliers d'ouvriers à Berlinois qui se précipitaient pour voir ses pièces. On arrive quand même là avec Rasputin et le soldat Schweik vers la fin des années 20. Donc il y a une montée de l'antisémitisme qui est énorme. Il y a des montées des idées réactionnaires. Et donc la presse l'écharpe, littéralement. On peut lire dans Der Tag le 8 septembre 1929, Piscator. Ce nom-là est le synonyme de l'incitation à la guerre civile. Cette action, celle de la pièce, est parsemée de chants empoisonnés, introduits par un oratorio gonflé de haine. Il va de soi que dans la pièce, tout ce qui pour un Allemand, et même pour un Juif honnête, signifie grandeur et dignité nationale, est tourné en dérision. Mais ces apôtres de la provocation qui, en cas de guerre civile, tenteraient de se défiler, doivent savoir que de l'autre côté, il y aurait des gens pour se souvenir de leur sale besogne qui a fait du théâtre allemand un asile d'aliénés et une foire de la dernière vulgarité. On peut lire aussi dans le Nachthausgabe du 7 septembre 1929, Piscator fait de cette banale histoire une pièce politique tendancieuse dirigée contre le capital. Et enfin dans le Berliner Lokalanzeiger du 7 et 8 septembre, revue dégoûtante de haine puérile. Tout ce qui est allemand et chrétien, tout ce qui porte l'uniforme, tout notre passé, toute la tradition prussienne et allemande est traînée dans la fange de perfides caricatures. Potsdam et son carillon, le grand roi, les généraux de la dernière guerre, nos marches militaires, nos chants les plus sacrés, de la merde, à la poubelle, tout cela. Donc, Piscator, effectivement, à la fin de ses années 20, est obligé de s'exiler et de partir de cette Allemagne qui sent le bruit des bottes. Pour finir, je ne résiste pas à vous lire une des dernières phrases écrites dans son livre. Donc, c'est le supplément au théâtre politique qui est paru en fait en 61, qui nous explique un peu la suite de Piscator. Qu'est-ce qui lui est arrivé aux États-Unis? Qu'est-ce qui est arrivé après à Berlin-Ouest? Avez-vous changé d'opinion? Vos idéaux se sont-ils modifiés? Me demanda-t-on en 1951 à mon retour dans mon pays. C'était à Berlin. La fenêtre de ma chambre d'hôtel donnait à perte de vue sur un champ de ruines. Avais-je besoin de changer, répondis-je. Regardez donc ces ruines au dehors. Voilà ce qui a changé. Depuis, les ruines sont devenues des palais de verre. Se transformeront-ils en ruines une fois de plus? Puisse notre destin nous en préserver. Mais notre destin, c'est la politique, comme l'a dit un jour Napoléon, reprenant le propos de Voltaire. De quel art avons-nous besoin aujourd'hui? Ne croyez-vous pas que c'est d'un art politique? Malgré tout.
Je suis le fond de la place, le fin de la place, mange mauvaise mine. Thank you.
me reste une toute petite minute donc pour vous annoncer deux choses. La première, c'est que nos camarades de la compagnie Grimm et Concocte vont jouer au Centre culturel Charlie Chaplin ce lundi 24 et mardi 25 leur pièce de Thomas Brasch qui s'appelle Mercedes. Donc on vous invite à aller vite réserver vos places. Il y a aussi là l'opportunité avec Balise d'avoir une place achetée, une place offerte. Donc si vous allez sur le site internet de Balise, vous pouvez réserver.
Voilà, ça se joue à 20h.
Et puis pour finir aussi, bah juste vous annoncer que la semaine prochaine, on va lire un texte d'une auteure dramatique qui s'appelle Sue Glover. Donc merci Amandine, merci Julien et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Allez, à la semaine prochaine.